Radio Okapi. Écho des développements. Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Code Développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et développement durable diffusé sur Radio Okapi. Comment réussir la transition énergétique en RDC? C'est à cette question principale que nous allons tenter de répondre au cours de ce magazine et Code Développement. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente ce numéro. Jean-Marc Matouaki coordonne et supervise ce magazine et Diedoné Nyangasa s'occupe de la mise en onde des codes de développement. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute de ce numéro.
L'information se retrouve aussi tous les jours sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. La transition mondiale vers les énergies propres pourrait constituer une opportunité pour la RDC si les pays améliorent la gouvernance de ces minéraux comme le cobalt et le lithium qui sont nécessaires pour la fabrication des batteries et des véhicules électriques selon les spécialistes. Que faut-il faire pour réussir la transition énergétique en RDC? C'est à cette question que va s'articuler ce numéro des codes de développement. Nous entamons cette émission par la perception de Martin Milolo, coordonnateur du mouvement des jeunes pour la justice climatique en RDC. La transition énergétique est un concept en vogue dès nos jours et il faut que la jeunesse congolaise se saisisse de ce secteur qui a plusieurs opportunités selon Monsieur Martin Milolo.
La plateforme existe, d'abord il faut dire que c'est une initiative des étudiants qui a commencé à partir des années 2015-2016. Vous vous souvenez que l'année 2015 a été décisive dans le contexte du changement climatique, c'est parce que c'était l'année au cours de laquelle on a adopté l'accord de Paris à la COP21. Qui est aujourd'hui un instrument très important dans la lutte contre le réchauffement climatique parce que notamment il impose la réduction des émissions de CO2 à la hauteur de 1,5% et c'est à cette occasion-là que les jeunes étudiants à l'époque à l'université de Kinshasa, on s'est réunis pour mettre en place ce mouvement-là pour lutter pour la justice climatique parce que déjà il y a le changement climatique mais le changement climatique provient de quelque part. Il y a les gens qui sont à la base de ce changement climatique, notamment les pays industrialisés, les pays du Nord global, qui, à travers leurs activités d'industrialisation pour se développer, ont émis plus de gaz à effet de serre, notamment les CO2 dans l'atmosphère, qui ont déséquilibré l'atmosphère et provoqué le changement climatique. Et le pays du Sud global, notamment les pays africains, notamment la RDC, subissent les effets du changement climatique alors qu'ils n'ont pas contribué à cela. Voilà pourquoi nous, on demande la justice climatique. Donc, c'est au cours de cette période-là et nous avons mis en place cette plateforme-là qui a plusieurs représentations et ici à Kinshasa et dans les provinces pour militer pour cette cause-là, pour que ceux qui ont causé ce problème puissent aussi avoir la responsabilité de pouvoir non seulement réparer, mais de pouvoir soutenir les efforts des pays qui subissent pour pouvoir s'adapter.
En des termes simples, la transition énergétique est la transformation du système de production énergétique qui consiste à passer d'un système énergétique essentiellement fondé sur des énergies fossiles, notamment les hydrocarbures polluantes, à un système fondé sur des énergies renouvelables et moins polluantes. Il s'agit d'une des énergies très polluantes vers les énergies non ou moins polluantes, soutient Bertin Bouya Kilabi, finaliste en sciences et gestion de l'environnement de la faculté des sciences et technologies de l'université de Kinshasa.
Quand on parle de la transition énergétique, c'est inclus dans la transition écologique, c'est une migration en fait. On quitte vers les anciennes habitudes d'utiliser les formes d'énergie qui ont été les plus polluantes de l'environnement, notamment les énergies fossiles, on parle de l'essence, du pétrole, etc. Vers des énergies...
Des hydrocarbures
Oui, vers des énergies qui n'émettent ou qui n'émettent pas ou qui émettent peu des gaz à effet de serre qui sont responsables des changements climatiques. Et donc quand on parle de ces concepts, c'est un concept d'abord global, mais aussi national. Parce que les conséquences sont justement globales, mais les actions doivent à partir du niveau local. Nous sommes un pays en voie de développement, comme l'a dit mon prédécesseur. La perception du concept de transition écologique ou énergétique ne devrait pas être la même que par exemple des pays européens, des pays occidentaux. Parce que de l'autre côté, ils sont beaucoup plus industrialisés, ils sont beaucoup plus développés et ils ont les moyens à leur disposition pour transiter directement. Mais chez nous, par exemple, s'il faut parler de la transition énergétique, par exemple, il faut voir d'abord quelles sources d'énergie nous avons. Déjà, l'accès à l'électricité, c'est moins de 20% des populations. Oui, très faible.
Même dans les zones urbaines.
Oui, dans les zones urbaines. Même cette électricité, même cette énergie la fossile, on n'en a presque pas. Et donc, c'est aussi une sensibilisation aux jeunes de comprendre que quand on parle de transition énergétique, il ne faut pas prendre les choses à l'européenne et les transposer ici. Nous avons nos réalités, nous devons les faire à notre manière. Et les mots justes que nous avons choisis pour la conférence, donc transition énergétique juste, c'est très adapté. Parce que, comme on peut le dire, d'une part, il y a des pollueurs qui se développent, qui améliorent les conditions de vie. D'autre part, il y a les conservateurs de la nature qui doivent transiter écologiquement avec des ventres affamés. Et nous, en tant que jeunes, nous disons non, on arrête cette politique de vouloir affamer les autres avec des concepts, des gros concepts, je peux le dire ainsi. Pourtant, ailleurs, c'est eux qui sont, quand je parle de eux, je parle des pays industrialisés, des pays du Nord, c'est eux qui sont responsables majoritairement de pollution, et c'est eux qui donnent des leçons, mais dont l'application semble souffrir. Et donc, nous sommes là pour sensibiliser et surtout aussi faire passer notre message à l'international pour dire que les jeunes Congolais se sont levés. Cette transition ne devait pas nous passer comme nos forêts nous passent et on n'en bénéficie pas. Pourtant, elle régule le climat du monde. Les jeunes doivent participer dans les processus de la transition écologique. Nous devons bénéficier des formations qui nous mettent dans la capacité de comprendre ces concepts dans le fond, les enjeux justement. Nous devons participer dans les processus de transformation de ces minerais stratégiques qui vont produire des voitures électriques demain, des batteries électriques, etc. J'aime donc participer au processus des marchés carbone. Il y a les marchés carbone qui se développent déjà, qui s'étendent, et donc nous devons entrer là-dedans. Mais ça, avant d'y entrer, nous avons aussi besoin de formation, je l'ai dit ici.
Exactement.
Les jeunes doivent être formés. Et cela, je fais aussi appel aux organismes internationaux.
Selon nos sources, la part des émissions de carbone de l'Afrique dans le total des émissions mondiales est inférieure à 3%. Cependant, la pression qu'exerce les changements climatiques sur les économies et les moyens de subsistance à travers les continents est disproportionnellement élevée et représente une injustice climatique, pense Martin Milolo, coordonnateur de la plateforme des jeunes pour la justice climatique.
On a choisi ce cadre ici. D'abord, c'est un espace vert et puis c'est un espace où on pratique la résilience. Vous pouvez voir ce que nous faisons ici, l'élevage, le mirail vert et puis ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de l'adaptation. Donc, le site ici, il est vraiment stratégique. Mais aussi, aujourd'hui, nous sommes le samedi 12 août 2023. Et le 12 août de chaque année a été instauré au niveau des Nations Unies, et je suis content d'être en face de la fréquence de la paix, qui est des Nations Unies, a été instauré comme la journée internationale de la jeunesse. Or, on dit souvent la jeunesse est l'avenir de demain. Et pourtant, le changement climatique menace l'avenir. Et donc, il y a une équation que nous devons résoudre, c'est pourquoi nous avons choisi de célébrer la Journée internationale de la jeunesse de cette année sous les thèmes qui a trait non seulement au changement climatique, mais aussi à la jeunesse. C'est ainsi que nous l'avons placé sous le thème de la jeunesse et la transition énergétique juste. Et chaque mot a son sens. Pourquoi nous disons jeunesse et la transition énergétique? Parce que la jeunesse doit aussi faire partie de ceux qui militent pour la protection de l'environnement, pour la protection du climat, pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc la jeunesse et la jeunesse qui constitue la majorité de la population mondiale et particulièrement en Afrique et au Congo notamment, doit être dans cette lutte. On ne peut pas atteindre le changement climatique, la réduction des émissions ou la protection du climat sans la jeunesse. Voilà pourquoi la jeunesse est importante. Mais il y a aussi la question du secteur énergétique, parce que le secteur énergétique est le premier responsable du réchauffement climatique. C'est à travers l'exploitation des émissions, des énergies, notamment les énergies fossiles, le pétrole, qu'il y a eu plus d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, il faut quitter les énergies fossiles vers les énergies renouvelables, vers les énergies propres. Alors, c'est dans ce cadre-là, dans ce mouvement-là, qu'on parle de la transition énergétique. Mais nous parlons de la transition énergétique juste parce que les pays développés, les pays qui ont causé ce problème du changement climatique et qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup d'infrastructures, qui se sont vraiment bien organisés pour aller dans la transition énergétique, ne peuvent pas être traités de la même manière que les pays sous-développés, les pays du Sud, les pays africains, les pays comme la RDC notamment, qui n'avaient pas les moyens nécessaires pour pouvoir aller facilement dans cette transition. C'est pourquoi nous parlons de la transition juste qui voudrait assez que on puisse soutenir les pays qui ont posé le problème du changement climatique, puissent non seulement soutenir les efforts en termes de construction d'infrastructures pour la production des énergies propres, notamment les installations des solaires, la construction des barrages hydroélectriques, ainsi de suite, puissent les soutenir aussi de cette manière-là, pour que qu'on puisse aller ensemble vers la transition énergétique adaptée aux réalités de chaque pays, parce que chaque pays est spécifique et est confronté par rapport à ses propres réalités. Et il faudra qu'il y ait une vraie justice dans ce processus de transition ici, et notamment en ce qui concerne la jeunesse. On doit aider le jeune à pouvoir innover dans leurs projections, à pouvoir proposer des projets innovants dans le cadre de la transition énergétique, pour aider à ce que le pays puisse aller de l'avant.
Une autre approche de la transition énergétique consiste à créer des territoires résilients, capables de s'adapter, de surmonter les épreuves et de rebondir après un choc ou une catastrophe naturelle soudaine. Martin Milolo, coordonnateur de la plateforme des jeunes pour la justice climatique, estime que la RDC n'a pas encore mis en place une politique bien définie de la transition énergétique. Et pourtant, les pays regorgent des réserves importantes de ressources minérales pour la transition énergétique mondiale.
Quelle est la politique gouvernementale sur la transition énergétique? Et en ce qui concerne la RDC, nous sommes un pays stratégique. On a les minéraux qu'on appelle les minéraux de transition, les cobalt, les lithium, les minéraux verts, les minéraux critiques. Aujourd'hui, la RDC détient plus de 60% de tous ces minéraux-là dans le monde entier. Quelle est notre politique sur la gestion des minéraux de transition? Demain, ça sera la source de notre malheur aussi, de notre des conflits, des gens qui vont encore nous agresser par rapport à ça. Quelle est notre politique de gestion de nos minéraux des transitions? C'est pourquoi les jeunes se sont réunis aujourd'hui pour pouvoir réfléchir autour de tout ça et proposer des points essentiels sur lesquels le gouvernement doit se pencher par rapport à ça. On ne peut plus continuer à gérer nos minéraux des transitions comme on les faisait bien avant. Aujourd'hui, il y a une demande accrue de ces minéraux-là, et nous devons bien nous préparer pour, en tout cas, nous confronter par rapport à ça.
Selon nos sources, la transition énergétique implique davantage des contacts transversaux entre divers métiers. Ce constat est particulièrement important dans les secteurs des bâtiments et des travaux publics, où les compétences à faire évoluer sont fortement liées à la capacité des différents métiers à travailler en parfaite collaboration. C'est ce qui fait dire à Bertin Bouyou, étudiant à la faculté des sciences de l'UNIKIN, que l'avènement de la transition énergétique implique le développement de nouvelles compétences, surtout chez le jeune congolais.
Oui, le développement des compétences est une grande clé pour savoir jouir de toutes les ressources que nous avons. D'ailleurs, si je peux le dire ainsi, si jusqu'à aujourd'hui, les pays voisins pouvaient avoir de l'avance sur la RDC, c'est parce que ils ont eu le temps de se former dans les matières. Et nous avons des pays qui ont tout autour en Afrique, qui ont des forêts dans lesquelles on a fait des inventaires forestiers. Et aujourd'hui, on peut se dire telle forêt a telle capacité de séquestration de carbone et on a droit à autant de crédits carbone. Pourtant, chez nous, ici, c'est encore des études à mener sur le terrain. Donc, il y avait un problème de compétences sérieux. Et pour nous, en tant que jeunes, ça en vaut la peine. C'est vrai que nous parlons de la transition énergétique de manière globale, mais dans les fonds, la transition énergétique a beaucoup de rubriques sur lesquelles il faut avoir des connaissances spécifiques, approfondies et adaptées aux réalités locales. Je peux dire que nous manquons ces connaissances-là et pour cela, il faut des formations vraiment adaptées. Et parce que la transition énergétique, ça touche tous les secteurs en fait. Ça touche en tout cas tous les domaines de la vie. C'est pour cette raison que même les universités, même les systèmes éducatifs devraient aussi suivre le pas pour que les universitaires qui sortent aujourd'hui ne soient pas comme ceux qui ont été formés hier parce que les enjeux y changent. Et donc c'est une adaptation à tous les niveaux, mais aussi un appel à la jeunesse de se cultiver aussi. Parce qu'actuellement, en dehors des universités, on peut être formé en ligne, on peut suivre des formations en ligne, des conférences internationales en ligne, et puis on se forme dans la matière pour avoir des réflexions qui cadrent avec des problèmes. Parce qu'on ne peut pas vouloir défendre, parce que les mondes ici, on peut le dire, on peut beau crier, mais c'est un problème d'intérêt. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'argent à donner à quiconque en demande. Il y a de l'argent, bien sûr, mais il faut de la pertinence pour avoir cela. Et la pertinence est souvent le soubassement de la connaissance. Donc, c'est pour ça que je peux le dire, la formation est d'une importance capitale. Et ce que nous faisons ici en dehors de l'information, mais c'est aussi une formation que nous donnons à ces jeunes qui devraient aussi emboîter les pas pour que les voies s'étendent. Vous savez, ce que le confrère a parlé et ce que j'ai dit ici ne suffit pas. Il faut un grand nombre. Il faut une conscience collective. Il faut que la jeunesse, non pas seulement de Kinshasa, de toutes les provinces de la RDC, s'élève et dise la même chose et de la bonne manière pour que cela donne une certaine image à notre pays afin que nous commencions à bénéficier de cela.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Débrouillez-vous pour vivre. La vie m'a moulingi, souka souka ya makambo. Mwana mama opikaka, motoki na yo tangisa. Molo hako zelate, sala lokola e. Ba West Africa e mama, ba toni ni poko. Ba yese koluka, sala lokola e. Ba libane na bakakyo, ba toni ni poko. Ba yese koluka, sala lokola e. Ba mpoto lukeshi e mame, ba toni ni poko. Baye se koloka, sala lokola e, anwa watunda ye, sala lokola, magi maye mame, azan se koloka, mwaye mpo a vivre, po vivre yo lukoko, debouye vo po vivre, article 15 moment, debouye vo po vivre, po vivre yo lukoko, debouye vo po vivre. Atana moi tonambula e, moto pusu amata kita kede wenz
se azonga ndako aloka se falanga aloka mwa mopanga mwa kopo ya masanga aloka mpo alata po vivre yo lukaka ebouye vo po vivre article 15 mama ebouye vo po vivre yo lukaka débrouillez vous po vivre. Lié à Yakate, Namo Bali Nangabateko, Asundolangana Bana, Nalonganana Mombongo, Nateki Songola Loso, Nateka Mwalundunda, Mwakopo Yamasanga, Nalokampo la vivre, article 15 mamba, ouye vopo vivre, article 15 mamba, ouye vopo vivre, po vivre yolo kaka, débrouillez-vous po vivre. Tala ba receveur, ba koganga tongo pokwaye, tala ba likablo, ketoni moka mobimba, tala ngo ba poro, botumo yisena liteo, tala ba musicien, tokonze ma poto liae, tala ba na classe, ba kotanga lobi baliae, article 15 mama, ouye vo po vivre, po vivre yo lukaka, ouye vo po vivre. La moto qui a causé, débrouillez-vous pour vivre. La lacrime n'a dit Bengangé, papi a oh. Article 15. Salangé qui salue. Adamo, Adamo, awo silikoli ya mbuma, heba mwana na ngai, awo kukia ngai kila, nabakita ni babino, lona ni pobolia, na moto kinde bozwili kuta, po vivre yolo kaka, debuye vo po vivre, article 15 mama, debuye vo po vivre, po vivre yolo kaka, debuye vo po vivre. La vie m'a mominié, souka souka ya ma kambo, mwana mama opikaka, otokina yota nisa, kolonga kozelate, salalokola e, ba west africa e mama, batonini popo, ba yese koluka, salalokola e, ba libane na ba greite o, batonini popo, ba yese koluka, salalokola e, ba mbotoloke shige mame, batonini popo, ba yese koluka, salalokola, madi madi maya peko se o, ba zanse koluka, mwayen po ba vivre, po vivre yo lukaka, ouye po po vivre, abwangle yo lukake, ouye po po vivre, po vivre yo lukaka, ouye po vivre la bamba e. Dalla bari sever, bako ganga tongo pokwae, dalla bali kablo, etoni moka mobima, dalla koba poro, utumo isera liteo, dalla ba musicien, bako zema poba lukae, dalla ba na klas, bako tanga lobi bazuae, babongo la ter, confiance moro keteo, article 15 mouma, ouye bo po vivre, po vivre yo lukata, ouye bo po vivre. Article 15 mama, débrouillez-vous pour vivre. Talaki mana di benga nange, the wabi yao, oh, ya kimbala mweni ya, mwana mo, pan, huh.
L'information se retrouve aussi tous les jours sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Bienvenue dans Écho des développements, les magazines l'environnement et développement durable des Radio Capi, axés sur les préalables à réunir pour réussir la transition énergétique en RDC. Les principes de la transition énergétique reposent sur les objectifs ci-après: accélérer la rénovation énergétique des logements, lutter contre la précarité énergétique des ménages et favoriser les recours aux énergies renouvelables et aux matériaux durable pour la construction de l'habitat. Le succès de cette transition énergétique dépend étroitement de l'amélioration de la gouvernance énergétique, pense Emmanuel Moussouyou, coordonnateur de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, Corap en sigle.
Ce qui nous a motivés pour organiser cet atelier, c'est le besoin de voir que la gouvernance s'est améliorée dans le secteur de l'énergie. Pourquoi ? Parce que le secteur a été libéralisé depuis 2014, et plusieurs fonds sont en train de circuler dans le secteur. Et il peut s'agir, n'est-ce pas, des fonds alloués pour la construction des ouvrages, dans lesquels on peut aussi trouver des fonds qui vont à l'État en termes de taxes, en termes, n'est-ce pas, d'impôts, d'une part. D'autre part, il y a plusieurs fonds qui vont dans le sens de réhabiliter des barrages, par exemple le contrat que signe la SNEL avec certaines entreprises minières, etc. Donc il y a plusieurs fonds qui circulent dans le secteur, d'une part. Mais on ne connaît pas comment se font les négociations. Les contrats ne se voient pas. Vous voyez, par exemple, on parle du projet Grand Inga. L'information n'est pas sur la table. Et donc, ce qui nous préoccupe, c'est de voir comment est-ce que la gouvernance dans le secteur s'améliore. Parlant de la gouvernance, on veut voir les aspects liés à la transparence. On a des contrats qui sont publiés, on a des informations qui sont disponibles. On veut voir, n'est-ce pas, la redevabilité. Ceux qui signent des contrats, ceux qui prennent des engagements dans le secteur sont redevables à la population parce que finalement, tout ce qui se fait, c'est pour le bien de la population. Donc la motivation pour nous, c'est de voir dans quelle mesure le secteur de l'énergie peut être intégré dans le système de rapportage de l'ITIL, qui est, n'est-ce pas, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Donc, d'une part, et d'autre part, comment est-ce que les services au niveau du ministère de l'Énergie appliquent cette norme-là qui nous amène justement vers la gouvernance. Voilà un peu ce qui nous motive pour organiser cette atelier.
Pensez-vous que l'ITI est une solution dans la mesure où on l'a vu, la forêt, les secteurs forestiers déjà intégrés, mais on n'a pas vu les changements, un grand changement là-bas.
Ouais.
Pensez-vous que c'est la solution vraiment l'ITI ou il faudra penser à autre chose?
L'ITI, quand on parle de l'ITI, on voit notamment la norme. La norme, c'est un outil de gouvernance. On peut utiliser la norme comme on peut utiliser d'autres outils. Les outils, ce sont les institutions qui les utilisent. C'est-à-dire, le changement qu'on peut voir, c'est que les animateurs ou les institutions intègrent dans leur mode de gestion l'application ou l'utilisation de ces outils qui nous amènent vers la gouvernance. Donc c'est ça la finalité. Intégrer l'ITI peut ne pas être la solution, mais que les animateurs, que les institutions intègrent dans leur mode de gouvernance, n'est-ce pas, l'utilisation de ces outils, qu'ils soient l'ITI ou d'autres outils, c'est ça qui sera la meilleure des choses que nous souhaitons. Donc, pour nous, la gouvernance ou l'amélioration de la gouvernance ne doit pas être que sur le papier, mais on veut voir dans l'applicabilité, n'est-ce pas, comment est-ce que toutes ces institutions seront prêtes à améliorer, parce que finalement, c'est pour l'avantage, on sait suivre les dépenses, on sait suivre les fonds qui circulent dans le secteur. La population s'est posé la question sur base de telles ressources qui étaient captées quelque part et qui devaient faire telle chose et peut-être qu'il l'a fait ou qu'il ne l'a pas fait. Donc pour nous la finalité c'est que cela devienne intégré au fait, cela soit intégré dans n'est-ce pas l'applicabilité ou dans la gestion par les entreprises, par les institutions publiques de l'appareil de l'État. Ces assises, n'est-ce pas, s'intègrent dans le cadre d'un travail qui a commencé depuis quelques années, de plaidoyer pour l'intégration du secteur dans l'ITI ou carrément pour l'amélioration de la gouvernance. Et donc, ceci est une des étapes qui vise, n'est-ce pas, la sensibilisation des acteurs. Donc, dans ce processus, nous sensibilisons aujourd'hui la société civile, nous allons sensibiliser les secteurs privés, les institutions y compris, pour qu'ils comprennent. Donc, l'objectif est de créer un débat autour de cette nécessité d'intégration du secteur dans l'ITI, de créer un débat autour de la nouvelle norme qui venait d'être adoptée à Dakar il y a quelques jours. L'objectif ici, c'est aussi de voir comment est-ce que les autres parties prenantes, n'est-ce pas, s'impliquent dans ce plaidoyer pour que le secteur soit finalement intégré dans le système de rapportage et aussi de façon spécifique que les structures du secteur de l'électricité appliquent cette norme.
La transition énergétique doit permettre de lutter contre les changements climatiques ou de limiter les réchauffements climatiques. La transition énergétique répond à la fois à un besoin et à une volonté des gouvernements comme des populations. Il faut encourager les jeunes à initier des projets qui s'inscrivent sur les créneaux de la transition énergétique, ajoute Martin Milolo, nous rappelant qu'il est coordonnateur de la plateforme des jeunes pour la justice climatique.
Vous voyez par exemple ici nous avons un projet qui a été mis en œuvre par le jeune, c'est dans le cadre de l'adaptation, par exemple pour lutter contre les têtes d'érosion, pour en tout cas l'élevage ainsi de suite, c'est dans le cadre de l'adaptation parce qu'on doit on doit faire un effort pour vivre avec le changement climatique.
Il faut faire avec la résilience.
La résilience, ainsi de suite. Et donc, nous devons plus mettre un accent sur l'adaptation. Parce que les autres vous parlent de l'atténuation. Or, pour qu'il y ait de l'atténuation, il faut la réduction des émissions. Depuis qu'on a signé des conventions, ils n'arrivent pas à réduire ces émissions-là. Et on nous demande, nous, de pouvoir aller dans des choses, non, voilà, il faut conserver vos forêts, il faut faire ceci. Et dans l'entretemps, nous avons des financements qui n'arrivent pas. Les 500 millions de dollars qui ont été promis à la COP26, à la RDC, pour la protection de nos forêts du bassin du Congo. Où en sommes-nous avec ça? S'ils ont déjà donné ça et qu'on a détourné, qu'on nous dise. Où en sommes-nous avec ça? Rien. Le fonds bleu sur le bassin du Congo, quelle est la part du Congo? Tout ça, rien. Et nous sommes aujourd'hui, le mois prochain, on ira à Nairobi dans le cadre de la semaine africaine sur le climat. Il y aura la question notamment du Congo qui sera au cœur avec les minerais de transition, le barrage d'Inga qui doit alimenter les autres pays. Que gagne la RDC dans tout ça? C'est ça que nous disons lorsque nous parlons de la justice. Et dans le cadre de la justice, énergétique et de la transition énergétique juste. Et donc, la jeunesse, si vous voyez la jeunesse s'élever aujourd'hui pour parler, pour commencer déjà à agir comme nous le faisons là, c'est parce qu'il y a urgence et nous devons vraiment être maîtres de nous-mêmes, de notre propre développement, vis-à-vis de nos réalités, vis-à-vis de nos contextes et de ce que nous avons, mais aussi tirer profit de ce que Dieu nous a donné pour que nous puissions aussi arriver au bonheur, à la prospérité, comme toutes les autres nations.
Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine des défenses des droits de l'homme, AZADO en sigle, pense que la question de la transition énergétique en RDC doit être prise en compte dans les champs d'action des activités de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE RDC.
La démarche de la société civile, elle est cohérente dans la mesure où la norme ITIE prévoit des prévisions minimales. Elle laisse la possibilité aux groupes multipartites de chaque pays d'examiner et de voir, au-delà des trois matières que l'ITIE prend en compte, est-ce que elle peut, la nation ou le pays peut en ajouter d'autres. C'est le cas de la République démocratique du Congo qui a ajouté la forêt, qui n'est pas au départ une matière faisant partie de l'ITIE. Vous avez par exemple la Mauritanie qui a ajouté la pêche, donc les poissons, comme étant une ressource importante qui génère beaucoup d'argent et dans laquelle elle voudrait avoir un peu plus clair en termes de transparence. Donc, ce que notre pays a déjà fait en intégrant la forêt, il peut aussi le faire en intégrant les secteurs de l'énergie. Et c'est ce que nous avons dit aux participants dans nos échanges, mentionnant le fait qu'aujourd'hui, la norme prend en compte la transition énergétique et l'électricité fait partie des énergies renouvelables, c'est-à-dire des énergies propres. Donc là, c'est déjà une fenêtre qui est ouverte par rapport à la démarche de la société civile, même si l'ITIE circonscrit la transition énergétique dans le cadre des industries extractives. Deuxième chose qu'il faut retenir, c'est le fait que c'est la nation qui décide de quel produit ajouter. La grande préoccupation reste celle de dire que l'ITIE RDC, nous avons plus d'une centaine d'entreprises minières qui sont dans les périmètres. On va ajouter les entreprises qui travaillent sur l'électricité. La conséquence est que le périmètre, une autre opportunité, c'est le fait que l'ITIE donne la possibilité aux nations, aux groupes multipartites, de pouvoir choisir quelle est la matière qu'ils voudraient ajouter en extension. Maintenant, la question que je m'ai posée, c'est de dire, nous avons déjà un périmètre qui a plus d'une centaine d'entreprises minières, une dizaine d'entreprises pétrolières, et si on ajoute les entreprises qui travaillent sur l'électricité, est-ce que le périmètre ne va pas nous créer des problèmes dans le sens qu'on aura un travail énorme? Mais moi, je me dis que l'expérience qui a été acquise avec ces années de mise en œuvre des litiers peut en fait servir de tremplin à ce qu'on imagine quels sont les mécanismes que les sociétés qui produisent de l'électricité et l'État peuvent mettre en place pour que ces informations soient quand même divulguées et soient suivies par les citoyens pour demander des comptes sur un secteur qui devient de plus en plus important et qui produit quand même des ressources financières importantes pour l'État. Pour intégrer un nouveau secteur, je pense que ce qui est en train de se faire, C'est ce qui avait aussi précédé l'intégration de la forêt. Il faut commencer, que les parties prenantes commencent le débat. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. La question est en train d'émerger petit à petit jusqu'au jour où elle sera soumise de manière officielle au comité exécutif pour en discuter et prendre la décision. Ce qui est vrai, c'est que le comité exécutif pourrait même prendre la décision négative, mais cela ne signifie pas que le débat ne devra pas continuer, parce qu'au départ, on a eu des discussions qui n'avaient pas abouti concernant le secteur, par exemple artisanal, le secteur de la forêt. Il a fallu 10 ans de combats acharnés par la société civile pour qu'on intègre la forêt et qu'on intègre l'artisanat. Donc, moi, je pense qu'on est sur la bonne voie. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, qu'elles soient de l'État ou qu'elles soient privées, ont une seule préoccupation, c'est de voir que les revenus qui sont payés à l'État servent effectivement à la construction du pays, à la construction des communautés. Parce que ces entreprises vivent autour des communautés qui sont très pauvres, et elles gagnent de l'argent. Et entre-temps, l'État n'investit pas dans ces communautés qui sont affectées par les activités de ces entreprises. Et donc, les entreprises ont intérêt à montrer à tout le monde que nous payons de l'argent et que la responsabilité revient à l'État d'utiliser cet argent dans la construction des communautés. C'est pour ça que je pousse les entreprises à aller dans cette direction-là, c'est-à-dire la direction de pouvoir publier les informations relatives aux taxes, aux impôts qu'elles payent au gouvernement.
Pour les pays producteurs de minerais essentiels comme la RDC, la transition énergétique peut créer de nouvelles opportunités économiques associées à une demande mondiale croissante de ces minerais. Le gouvernement congolais a le devoir de mettre en place des projets réalistes dans le secteur de la transition énergétique, pense Martin Milolo, nous rappelant qu'il est le coordonnateur de la plateforme des jeunes pour la justice climatique.
Nous saluons déjà les initiatives, mais ce ne sont pas les initiatives qui manquent au Congo. On a beaucoup d'initiatives, mais ce sont les résultats qu'on ne voit pas. Nous avons des envoyés aux économies vertes. Nous avons on a beaucoup de structures, non seulement à la présidence, mais dans beaucoup de. On ne voit pas les résultats. Pourquoi on ne voit pas les résultats? Parce que il n'y a pas une politique claire par rapport à cela. Qu'est-ce que nous voulons faire dans le cadre de cette transition énergétique? On s'est dit un pays solution. On s'est dit un pays solution par rapport à quoi?
Exactement.
On s'est dit un pays solution par rapport d'abord à nos minéraux de transition que nous avons, comme je l'ai dit, par rapport à notre forêt, par rapport à nos ressources, à biodiversité. On s'est dit pays solution par rapport à ça. Mais quelle est la politique? Quelle est la vision nationale que nous avons en tant que pays? Et lorsqu'on parle de la politique gouvernementale, c'est au fait la vision du pays. Mais qu'est-ce que nous voulons faire, par exemple, avec le minerai de transition? Est-ce que nous voulons les exporter à l'État brut pour que les autres aillent construire, fabriquer les batteries? Ou qu'est-ce que nous voulons faire avec? Ou est-ce que nous voulons nous entendre avec la Zambie ou la Tanzanie pour fabriquer les batteries sous financement des États-Unis d'Amérique, alors que on sait que c'est celui qui finance, qui contrôle. Oui. Et donc tout ça, ça nous montre que il n'y a pas une vision claire et bien définie. Voilà pourquoi nous demandons à ce que, au niveau de la présidence de la République, au niveau du ministère de l'Environnement, au niveau du Parlement, au niveau des entreprises minières, qu'il y ait une sorte de cadre de concertation pour définir la politique nationale de la transition énergétique. Et pour que nous puissions non seulement tirer profit de nos réserves, de nos ressources, mais aussi que nous puissions les utiliser aussi parfois comme des outils diplomatiques. Vous savez, aujourd'hui, avec nos minéraux que nous avons, nous pouvons imposer, par exemple, à certains pays que si vous voulez avoir accès à nos minéraux, il ne faut pas, par exemple, coopérer avec le Rwanda qui nous agresse, ou par exemple avec un certain pays qui est hostile à notre, au Congo. Et donc, c'est ça que nous disons lorsque nous parlons en termes de politique. Mais aussi, lorsqu'on a les on a une politique, on a des objectifs, oui, on a des résultats à atteindre, mmh, on a des acteurs. Alors, quel est le rôle? Qui fait quoi
dans cette transition énergétique,
quel est le rôle, par exemple, de la présidente de la République? Quel est le rôle du ministère de l'Environnement?
Quel est le rôle des universités?
Quel est le rôle des universités? Là où nous sommes ici à l'université. Est-ce qu'on parle déjà, d'ailleurs, à l'université, lorsqu'on parle de la transition énergétique, ça se voit comme un concept nouveau, alors que ce sont des choses, alors,
qu'il faut déjà se l'approprier.
Et donc, c'est ça que nous disons, chaque entité, chaque institution, chaque organe doit avoir son rôle à jouer dans cette dynamique de la transition énergétique. Mais sans oublier que la jeunesse doit être au centre. La jeunesse doit être vraiment au cœur de cette transition énergétique que nous voulons, juste parce que nous avons des gens aujourd'hui. Je vous ai parlé de l'accord de Paris. Mmh. Depuis qu'on a signé cet accord, et depuis même avant l'accord de Kyoto,
les décaissements, c'est en dessous de 10%.
Oui, toutes ces promesses-là restent encore des lettres. Ce qui montre qu'au niveau international, il n'y a pas une volonté. Vous avez vu la rapidité avec laquelle on a mobilisé l'argent pour faire face à la COVID-19. Par exemple, en peu de temps, on a fabriqué des vaccins. Ça montre que lorsqu'il y a la volonté, on peut aller. C'est ainsi que nous disons, les pays africains, les pays en développement comme le Congo, on ne doit pas aller dans un mouvement comme qu'on nous emballe comme ça. Non, nous, ce que nous demandons, c'est la justice climatique et la justice aussi dans cette transition. Nous voulons qu'on puisse avoir une politique bien déterminée et que nous puissions nous focaliser sur l'adaptation. Parce que en ce qui nous concerne, le changement climatique, il est déjà là. Mmh. Et peut-être ce n'est pas pour demain que ça pourra partir. Il faut que nous puissions nous adapter.
En changeant notre façon de produire et de consommer de l'énergie, on peut réduire ces pollutions et cette consommation des ressources. C'est pourquoi la transition énergétique est souvent qualifiée de transition énergétique et écologique, car elle permet de réduire notre impact sur l'environnement. Cela nécessite un travail de complémentarité de tous les secteurs de la vie, renchérit Bertin Bouyou. Nous rappelons qu'il est étudiant à la faculté des sciences de l'université de Kinshasa.
L'unité dans la diversité. Vous savez, le secteur de l'environnement, la transition énergétique, il est vaste. Il y a beaucoup de sous-secteurs là-dedans. Mais nous devons être unis parce que la vision, elle est la même que la jeunesse congolaise devrait défendre. La protection de l'environnement, la transition énergétique, mais la promotion aussi du bien-être des Congolais par le biais de la transition énergétique. C'est ça le message, bien que tout le monde a son spectre, et là nous devons nous unir. Le deuxième message, c'est l'auto-formation. Nous ne pouvons pas être des bons défenseurs de la transition énergétique, nous ne pouvons pas être des bons bénéficiaires lorsque nous manquons d'informations suffisantes. Parce que si on en manque...
Pour porter le plaidoyer,
justement, il faut des informations. Donc, même si on a de revenus sur ça, quand on n'aura pas d'informations, on aura en dessous de notre capacité à les avoir. Et donc, c'est très important. La troisième information ou la demande que je fais, c'est aux autorités. Les autorités doivent soutenir les actions de jeunes. Les autorités doivent prêter l'oreille attentive à la jeunesse. Les jeunes ont beaucoup d'initiatives, ont beaucoup de projets. C'est vrai qu'il y a d'autres projets de jeunes qui sont soutenus dans ces secteurs. Mais la majorité, nous souffrons avec des projets et des jeunes ne sont pas beaucoup soutenus. Quatrième et dernière proposition, je reviens aux jeunes. Je leur dis que quand on parle de l'environnement, derrière, il y a l'argent. Transition énergétique, il y a l'argent. Est-ce que les jeunes ne peuvent pas mettre en place des projets de centrales solaires, des projets de participer aussi à la transformation de minerais? Et nous, quand on parle de transformation de minerais, les Congolais ne voient que les étrangers. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des entreprises congolaises, des jeunes, qui transforment le cobalt en autre chose, qui montent les batteries? Ça aussi, c'est une dimension que les jeunes devraient avoir.
Oui.
Donc, il ne faut pas penser que quand on parle de ça, c'est pour les Européens, les Américains. Non, monsieur Congolais, tu peux aussi t'y impliquer. Tu peux faire une entreprise d'achat des crédits carbone et des ventes. Nous avons les organismes internationaux qui le font ici. Mmh. Et les jeunes peuvent aussi se constituer à un réseau. Ils mettent en place du sérieux. Parce que nous ne sommes
et
pas
que...
Au bout de 5-10 ans,
ils sont payés.
Ils sont payés, ils sont certifiés, ils ont des avantages. Donc nous ne sommes pas là que pour militer sans qu'il n'y ait de revenus financiers. La protection de l'environnement, c'est toujours lié à l'argent. Chers jeunes, lèvons-nous, défendons notre environnement, mais gagnons du pain derrière.
La jeunesse congolaise est censée s'intéresser à la problématique de la transition énergétique, car c'est un secteur qui offre plusieurs opportunités, conclut Martin Milolo. Nous rappelons qu'il est le coordonnateur de la plateforme de jeunes pour la justice climatique.
La jeunesse congolaise doit prendre conscience de sa responsabilité. Il y a quelqu'un qui disait que chaque génération doit identifier sa mission et dans une certaine mesure l'accomplir ou la trahir. Nous sommes dans un contexte de changement climatique. Le changement climatique s'est imposé. Et la transition énergétique aussi est une obligation qui s'impose. Et la RDC est au centre des enjeux du monde. Or, en RDC, plus de 70% de sa population est constituée de personnes jeunes. Et la transition énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique, concerne en premier lieu le jeune. Voilà pourquoi je lance un appel d'abord au rassemblement, à l'union, à l'unisson, pour que nous puissions d'abord nous unir. Et si nous unissons, que nous puissions choisir notre combat dans cette question
avec
une vision claire. Et en ce qui concerne la transition énergétique, nous avons un seul message à donner, c'est que nous devons lutter pour que nous puissions avoir la politique nationale pour demander au gouvernement, pour demander à nos autorités, pour avoir une politique nationale de gestion de nos minéraux de transition. Deuxièmement, nous devons faire en sorte que nos minéraux puissent être transformés, mis en valeur localement et qu'il n'y ait plus de l'exportation à l'état brut de nos minéraux. Nous devons aussi nous assurer que notre contribution à la stabilisation du climat mondial est rémunérée et que cette rémunération profite à la population. Nous devons savoir ce qui est arrivé avec les 500 millions de dollars obtenus à la COP26 pour la République démocratique du Congo. Nous devons savoir qu'est-ce qui est arrivé avec toutes les initiatives dans lesquelles nous avons pris part dans le cadre de la contribution au changement climatique, et nous devons arriver à nous élever pour participer là où on parle des questions de transition énergétique pour faire entendre la voix du Congo. La jeunesse doit participer massivement à la prochaine COP28 qui sera organisée à Dubaï. Je lance aussi un appel à la jeunesse et à toute personne de bonne volonté, aux organisations et au ministère de l'Environnement, ainsi de suite, pour aussi favoriser la participation de jeunes à la semaine africaine du climat qui aura lieu du 4 au 8 août à Nairobi sur la justice, le 4 au 8 septembre de cette année en Nairobi sur la justice climatique. C'est très important parce que lorsque vous n'êtes pas là, on parle de vous sans que vous soyez là. Et on prend des décisions sur nous. Vous savez qu'il y a des gens qui bénéficient l'argent dans le cadre du fonds sur le bassin du Congo, mais la RDC n'en bénéficie pas. Et tout ça doit interpeller la jeunesse. Et nous sommes même dans le contexte où on nous parle des élections. Mais quelle sorte de gens allons-nous mettre dans nos institutions par rapport aux questions qu'il y a, par exemple, un projet sur la justice climatique. Parmi tous ces gens qui se présentent aux élections, qui a une vision, une politique, un projet de société sur la transition énergétique, par exemple. Et donc, tout ça doit nous interpeller pour que nous puissions être de jeunes exigeants, pour que nous puissions être de jeunes conscients qui sont maîtres de leur destin et qui prennent les responsabilités pour défendre ce que Dieu nous a donné. Et le cas de minéraux de transition est un cas flagrant. Nous devons vraiment protéger ces minéraux ici. Et les jeunes, partout où ils se retrouvent, doivent remettre sur la surface la question de la gestion des minéraux de transition. Nous devons voir clair dans l'exploitation de ces minéraux. Nous devons voir ce que génère ces minéraux. Nous devons nous opposer à l'exploitation, à l'exportation, à l'état brut de ces minéraux. Et nous devons nous assurer que la RDC obtient la justice par rapport à sa contribution. Vous avez les pays comme l'Allemagne qui émet plus d'émissions que l'ensemble du continent africain dans son ensemble. Et est-ce que vous trouvez ça normal qu'aujourd'hui, qu'on soit en train de subir, par exemple, la famine au niveau du Kasaï, du Katanga, à cause du dérèglement climatique et les récoltes ne sont pas bonnes à cause du changement climatique? Ça doit s'arrêter et il est temps de pouvoir agir en faveur de la transition énergétique juste et en faveur de la justice climatique.
C'est par ici que nous clôturons ce magazine Éco de développement consacré au préalable à réunir pour réussir la transition écologique en RDC que vous a présenté Tatima Poukou sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki. Dieudonné Nyangassa a été à la prise des sons. Le rendez-vous est pris pour le jeudi prochain. En attendant, portez-vous bien et bonne condition d'écoute des programmes de Radio Capi. À bientôt.